Donc je parlerai d'abord comme philosophe, puis Denis Mestralet parlera à partir de son expérience de notaire, et Bénédicte Draillard apportera le point de vue qui est celui de l'Église, entre autres, à travers ses fonctions à l'officialité. Et d'ailleurs, il est intéressant aussi pour des juristes et des étudiants en droit de savoir qu'il y a un droit canonique et que ce droit canonique est riche de sens et qu'on a beaucoup à s'éclairer de son expérience. Les philosophes n'ont pas beaucoup parlé du mariage. Non seulement les philosophes n'ont pas beaucoup parlé du mariage, mais Nietzsche fait remarquer avec justesse qu'ils sont tous célibataires. Nietzsche dit « tous les grands philosophes sont célibataires ». Évidemment, c'est un coup de pied dans les tibias de Hegel qui est le seul à être marié, et il en prend occasion pour faire comprendre au passage qu'à ses yeux, Hegel ne rentrerait pas tout à fait dans la catégorie des grands philosophes. Les philosophes n'ont guère parlé du mariage, ils sont restés célibataires. D'ailleurs, ils parlent peu de l'amour, si ce n'est sous l'angle de l'abstinence ou, pire, de l'hygiène. Pourquoi ce silence? C'est assez curieux sur une réalité fondamentale. Alors, il est vrai que cette réalité est très largement inspirée par la tradition chrétienne qui l'a renouvelée, et que la philosophie est née dans un contexte païen. Mais surtout, je crois que les philosophes sont gens épris d'autonomie. Alors Descartes, Spinoza nous disent, nous déconseillent de faire des vœux définitifs. Et puis les philosophes ne comprennent pas bien comment une liberté éprise d'autonomie pourrait se lier à une autre. Se lier à... Voilà une chose qu'un homme ne doit jamais faire. Que ce soit à une âme sœur, ou que ce soit à un pouvoir, ou à quoi que ce soit. Et je pense que c'est une des raisons qui fait que on trouvera peu de textes philosophiques sur le mariage, et même peu de textes philosophiques sur l'amour. Mais cela nous permet aussi de penser que la littérature aussi parle peu du mariage. Oh, la littérature ne parle pas du mariage. Puisqu'en gros, la littérature place l'amour dans l'infidélité, dans la transgression. Et voilà des siècles que de bons époux bien bourgeois et bien tranquilles lisent des romans d'amour qui leur disent que le véritable amour, c'est la passion déchirante et adultère. Bon, alors de temps en temps, ces lectures les travaillent un peu, mais la littérature est incapable de parler du mariage, a une difficulté à parler du mariage. Elle conclut une histoire par un mariage, ou elle le commence par un mariage qui va être défait, mais au fond, elle n'a pas grand-chose à dire du mariage. Je signale à ce propos qu'il y a aussi, il y a au Collège supérieur un ciné-club qui justement porte sur le thème du mariage. Toute l'année présentera des films sur le thème du mariage. Et il se trouve que le premier film est demain. C'est Raison et Sentiments, à partir de la nouvelle de Jane Austen. Mais je ne développe pas ce propos qui est une parenthèse, curieusement, le cinéma, lui, parle du mariage. Bizarre. La littérature n'en parle pas, le théâtre n'en parle pas, mais le cinéma en parle. Sans doute parce que le cinéma est un art de l'intériorité. Et que, du coup, il est conduit à explorer bien davantage l'intimité des tourments humains que d'être projeté dans des débats un peu stéréotypés. Donc ça nous rappelle que l'amour tel que conçu en Occident, dans la philosophie ou la littérature, est au fond essentiellement subversif et transgressif. Nos grands mythes, c'est Roméo et Juliette, c'est Tristan et Iseut, c'est Faust, c'est qui tous placent, sont des mythes de la transgression, qui jettent des individus aux marges de la société dans une attitude d'insoumission à l'égard d'un ordre qui, du coup, apparaît comme essentiellement oppressif. Et donc, on pourra toujours chanter que l'amour est enfant de bohème, et qu'il ne connaît pas de loi. Donc la question que je vais essayer de traiter, c'est de comprendre pourquoi une réalité humaine que l'on appelle l'amour peut prendre forme de loi. Et comment l'amour peut-il ne pas entrer en contradiction quand il prend forme de loi, et même quand cette loi donc prend la forme de l'institution du mariage. Alors je partirai de l'amour, ce qui d'ailleurs se discute, et je pense que Bénédicte Draillard le discutera, parce qu'il est vrai que la première réalité du mariage n'est probablement pas celle de l'amour. Mais dans l'Occident et dans l'Occident chrétien, on s'efforce de construire le mariage sur l'amour, mais c'est extrêmement rare. Mais je considérerais que nous sommes dans l'Occident chrétien et que donc on va essayer de construire le mariage à partir de la réalité de l'amour, mais ce n'est pas une réalité fondamentale du mariage. Puisque la réalité fondamentale du mariage, c'est l'alliance des familles et des partages patrimoniaux. On reviendra là-dessus. Alors, aimer quelqu'un, c'est normalement en prendre la responsabilité. Quand quelqu'un dit « je t'aime », ce qui est sympa, celui qui entend cette phrase n'entend pas simplement comme un constat, il l'entend comme une promesse. Il ne dit pas « je t'aime à l'instant », mais dans ce « je t'aime », il y a une promesse, et il y a même une promesse qui ouvre un temps indéfini, qui veut dire « je prends la responsabilité de toi, je t'assure protection, assistance, etc. » De telle sorte que l'on peut comprendre qu'il y a un lien intrinsèque entre l'amour et le serment. Le serment étant l'acte par lequel la liberté se rend maîtresse du temps. Et dit, je promets. Donc ça va pas dépendre du lendemain, ça va pas dépendre de mon humeur, ça va pas dépendre du climat. Quelqu'un qui dit je promets, il se rend acteur du temps. Il prend un coup d'avance sur le temps. Et c'est pourquoi il semble qu'il y ait un lien fondamental entre l'amour et le serment. Et heureusement que un homme et une femme qui s'aiment peuvent se prêter serment. En se prêtant serment, il s'ouvre un avenir sûr, normalement, qui veut dire, tu peux tomber, tu peux être malade, tu peux tomber en disgrâce, tu peux devenir pêcheur, tu peux devenir ivrogne, tu peux venir n'importe quoi, tu trouveras toujours quelqu'un pour t'accueillir, c'est moi. Normalement, c'est ce que veut dire je t'aime. Je t'ouvre un avenir. Quitte de tout examen, je t'ouvre un avenir sûr, et c'est la raison, et c'est la forme que prend le serment. Ce serment engage pas simplement des individus, mais des familles, puisque des individus ça n'existe pas, ils sont nés dans des familles. Et à travers cet engagement, ils peuvent se soucier effectivement de manière prudente du contrat qu'ils prennent l'un à l'égard de l'autre. Donc il n'est pas illogique que quelqu'un qui a fait serment prenne un contrat. Surtout s'il a la prudence de savoir qu'il a vu autour de lui des gens qui ont trahi leur serment. J'avais dû en voir, moi aussi. Et puisque j'ai vu autour de moi des gens qui ont trahi leur serment, au moment où je prête serment, il est prudent de dire à l'autre « je t'offre un contrat ». Pour te garantir contre ma propre imprudence. Quand j'emprunte de l'argent à un ami, je lui dis « je te fais un papier ». Cet ami me dit « mais non, pas de papier entre nous ». Si, 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 j'insiste. Je peux te renier, je peux mourir, mes enfants peuvent ne tenir aucun compte de mes dettes. Donc c'est moi qui donne un papier à l'autre pour me garantir contre moi-même. Et ça, c'est le sens du contrat en tant qu'il fait suite en quelque sorte au serment. Mais en même temps, un homme et une femme qui se donnent assistance et se lient l'un à l'autre sous la forme du serment, fondent une famille. Car il y a un lien qui reste naturel entre le lien charnel et l'enfantement. Et donc le serment prend la forme d'enfant. Alain dit très joliment, l'enfant est un sceau de chair au bas du parchemin. On peut déchirer un sceau de cire, on ne peut pas déchirer un sceau de chair. C'est plus facile à écrire qu'à prononcer. On peut déchirer un sceau de cire, on ne peut pas déchirer un sceau de chair. Et à partir du moment où des êtres ont prêté serment, ou à partir du moment où ils ont ouvert un avenir, ils ont construit un avenir, et cet avenir qu'ils ont construit prend réalité, et de telle sorte qu'ils font société. Et voilà que, à la différence de ce que vivent Roméo et Juliette, à la différence de ce que vivent Tristan et Iseult, s'aimer, c'est faire société. C'est être une maille fondamentale du tissu social, par laquelle le phénomène social fondamental va prendre réalité. Le phénomène social fondamental, c'est quoi? C'est la transmission. Une société qui ne transmet pas est une société qui se désagrège, une société qui se délite. Et donc, si, appelons-le maintenant le foyer, tiens, si ce foyer devient le lieu même de la transmission, il engage aussi la société avec lui. Il fait société. Et c'est ce qui justifie que le mariage ne soit pas simplement un contrat, mais une cérémonie. Qui a lieu à la mairie, devant monsieur le maire, avec des témoins. Il faut que la porte soit ouverte, car le mariage est public. Le maire doit avoir son écharpe. Il n'y a pas de mariage privé. C'est un point fondamental. Il n'y a pas de mariage privé. Il faut que la porte soit ouverte. Et de telle sorte que ce n'est pas seulement l'engagement de deux individus, mais c'est la naissance d'une cellule de la société. Et c'est pourquoi il y a une cérémonie. Car la cérémonie, c'est le passage de l'intime à l'extime, de l'intime à l'extérieur, et c'est pas simplement une extériorisation. J'ai mis en pièce jointe, pour ceux qui ont accès au dossier, ceux qui n'ont pas accès, parce que il y a des personnes parmi nous qui viennent au titre de la formation permanente, elles ont droit à un dossier. Les autres n'ont pas droit. Si toutefois vous voulez avoir accès au dossier, on vous demandera, je sais pas combien, 2 euros je crois, pour les frais de composition de ce dossier, et vous y trouverez un très beau texte de Hegel, dans lequel Hegel explique le sens d'une cérémonie. Comment extérioriser un sentiment, c'est pas simplement le publier. C'est pas simplement officialiser quelque chose, mais c'est le faire passer à un autre statut, à un autre niveau, qui en fait donc un acte civil. Et tel est le sens du mariage civil, de l'imminent mariage civil par lequel la société, attention, c'est un point qui me semble fondamental, le mariage civil n'est pas l'officialisation d'une histoire intime, mais le mariage civil est la réalité par laquelle la société manifeste qu'elle a besoin de gens qui se marient. La société manifeste qu'elle a besoin de gens qui fondent une famille et qui fondent une famille stable. C'est pas les époux qui ont besoin de se marier, c'est la société qui a besoin que les époux se marient. Et c'est pourquoi ça prend forme de cérémonie. Car s'il n'y avait pas des gens qui ouvrent et fondent un foyer où les gens où les autres puissent venir se réchauffer, eh bien la société serait l'agitation d'électrons libres. Parfois, c'est le sentiment que l'on a. Un serment, un contrat, une cérémonie. Vous avez là toutes les dimensions qui permettent de comprendre comment un sentiment qui semble un peu évanescent, variable, tout passe, tout lasse, tout casse. Le peut prendre une forme stable, peut prendre une forme d'engagement et peut être délibérément constitutif du lien social. En particulier, donc, en tant qu'il assume le temps, il y a un très beau texte de Kierkegaard sur cette question, donc on vit pas dans l'instant, on assume le temps, la durée, le lendemain. On assure le lendemain du conjoint, on assure le lendemain des enfants, on assure le lendemain de la société. Donc on ne veut pas simplement se marier, mais on veut une société dans laquelle le mariage soit possible. Et qui se marie à la mairie manifeste par là que c'est pas que Georges et Georgette s'aiment, c'est qu'ils veulent qu'une société soit possible où le mariage ait lieu. Et ils veulent cette société-là. Et c'est pourquoi c'est d'une part leur engagement, mais c'est d'autre part aussi l'engagement de la société qui reçoit leur consentement. Ce lien civil se suffit en lui-même. Le serment se suffit en lui-même. Si quelqu'un a le cœur droit, un serment suffit. Quand j'ai promis de plus fumer, je vais passer devant le maire ou devant le curé. Je fumerai plus, j'ai plus fumé. Si un homme est un homme, heureusement qu'il tient un serment. Donc un homme et une femme qui se sont prêtés serment sont mariés. Même s'ils ne sont pas passés devant le maire et devant le curé. Ou alors c'est que le serment veut rien dire. C'est le texte d'une chansonnette. Mais si le serment veut dire quelque chose, le serment seul devrait suffire honnêtement à les marier. Mais il est prudent de savoir que nous sommes capables de trahison et de violence, donc il est prudent de compenser le serment par un contrat, en disant à l'autre, j'ai déjà vu des gens qui ont trahi leur serment, donc je te donne un contrat. Et puis, ceux qui ont donné corps à une cérémonie, sont fondamentalement unis par cette cérémonie aux yeux de la société qui promet par là de les aider normalement. C'est ce qui peut nous introduire à la quatrième dimension du mariage, le serment, le contrat, la cérémonie. La quatrième dimension du mariage, c'est celle du sacrement. Le sacrement, je laisserai Bénédicte en parler, moi j'en parle simplement en deux mots en philosophe, donc en ignorant. Les philosophes sont les spécialistes en ignorance, imbattables en ignorance. Dans le serment, ça a de la gueule un serment. Et je disais, un homme qui prête serment, ben, normalement il tient parole, quoi. Ouais, ça a de la gueule, mais ça a quelque chose d'orgueilleux. Parce que celui qui dit « j'ai prêté serment et compte sur le ressort de sa seule volonté », il est orgueilleux. Et même quand je dis « jamais plus je fumerai, allez, 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 je suis orgueilleux », mais un peu d'orgueil ne fait pas de mal. Et si quelqu'un a la foi, il comprend que dans cet orgueil, il y a une fermeture au fond, et il y a quelque chose d'insensé, et il comprend que le sacrement va bien au-delà du serment. Ce n'est pas le serment qu'échangent deux individus, c'est pas simplement l'engagement de deux individus, mais c'est aussi l'engagement devant Dieu, non seulement l'engagement devant Dieu, mais l'engagement de Dieu dans cette réalité qui, à ce moment-là, se reconnaît comme fondée au-delà de sa volonté. Dans le serment, la volonté se fonde elle-même et essaye de se soulever elle-même. Il n'y a que le baron de Münchhausen qui y arrive à soulever lui-même et son cheval. Mais bon, la liberté peut se dire, par le serment, je me tiens moi-même. Dans la cérémonie civile, la liberté sait qu'elle ne se tient pas complètement elle-même et que Il est bon qu'elle se lie et qu'elle existe dans un réseau qui la rende possible, etc. Car il serait répugnant de dire aux gens « mariez-vous » puis de les laisser tomber. Et pas leur donner d'allocation familiale ni d'école à leur enfant. Et puis, la dimension religieuse, c'est que la volonté se sait trop courte pour atteindre l'amour qu'elle pressent. Ce c'est trop courte pour atteindre le bonheur qu'elle pressent, et elle tend la main pour demander un peu d'aide. Voilà ce que je voulais rapidement proposer pour résoudre cette question. Comment se fait-il que l'amour puisse prendre forme de loi? Cette loi, que va-t-elle devenir entre les mains du notaire? Denis Mistralet, donc, est notaire. Il a enseigné naguère à l'école de notariat. Et je lui ai demandé d'intervenir sur cette question du mariage plutôt qu'un avocat. Habituellement, nous avons des avocats et des juges. C'est la première fois que nous avons l'honneur d'inviter un notaire. Vous inaugurez une démarche que nous n'avions jamais faite. Et j'ai trouvé intéressant que sur le mariage, on invite un notaire à parler. D'abord parce qu'un avocat risque d'avoir des conflits d'intérêts. Parce que aussi, le notaire est celui qui voit la manière dont les gens raisonnent. Et ils raisonnent de diverses manières.
Je vous remercie de me faire cet honneur d'être le premier à intervenir de ma profession. J'ai essayé de faire honneur à cette invitation. Et en guise d'introduction, je vais d'abord préciser que je ne suis pas universitaire de formation. On peut accéder à la fonction de notaire par la voie professionnelle, c'est ce que j'ai fait. Par ailleurs, je suis marié, je suis tombé sur une bonne épouse, ce qui, selon Socrate, ne m'a pas permis de devenir philosophe, bien que ce soit excellent pour l'homme. De ce fait, mon propos est inspiré de ma pratique professionnelle, des conversations que j'ai eues à l'étude, de certaines lectures que je citerai, et puis bien entendu de mon passé, de mes convictions, de mon éducation. J'ai essayé de diviser mon propos en quatre parties pour situer un petit peu l'évolution du mariage et de la règle de droit. L'évolution du statut du mariage est un petit peu en pleine accélération, et si on revient à ce qu'était la société avant la Révolution, une société fortement patriarcale, majoritairement catholique, et il n'y avait pas de distinction entre le mariage civil et le mariage religieux. Le tout était indissoluble, l'un n'allait pas sans l'autre, et tout ça va évidemment évoluer, puisqu'à partir de 1792, il y a une dissociation qui se fait entre le mariage civil et le mariage religieux, en ce sens que, à l'aube du code civil, le mariage peut être dissous, le divorce devient possible, et le sacrement de mariage cesse d'être nécessaire pour fonder légitimement une famille, même si dans la majorité des cas, les mariés effectueront les deux cérémonies civiles et religieuses. À l'époque donc, du Code civil, le mariage est considéré avant tout comme une institution fondamentale à l'équilibre social, dans l'esprit que cet équilibre avait à l'époque, puisque, pour les juristes, je vous rappelle que la femme était considérée comme incapable juridiquement. Elle passait de l'autorité du père à l'autorité du mari. Elle n'avait aucun pouvoir pour administrer ses biens. Et même la veuve, ayant eu des enfants, restait surveillée par un conseil de famille composé des membres de la famille de son mari. Donc c'est vous dire si effectivement la situation a effectivement évolué. Mariage civil donc était regardé comme une institution qui assurait la légitimité des filiations et qui évitait la dispersion des héritages. Aujourd'hui, ces pratiques sont évidemment regardées comme archaïques et lointaines, même si on se rappelle que Madame ne vote que depuis 1944. Le régime dotal, qui était un régime matrimonial sous lequel les biens de l'épouse étaient inaliénables, insaisissables et soumis à l'administration du mari, a été supprimé par la loi du 13 juillet 1965. c'est depuis 65 que l'épouse peut travailler sans l'accord de son mari et qu'elle peut ouvrir un compte bancaire à son nom, même contre l'avis de son mari. Donc il y a eu du progrès, mais quand même assez récemment. C'est une loi de 1970 qui établit que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. C'est l'article 215 du Code civil, et dans sa rédaction antérieure, qui datait de 1942, l'article 215 disait que le choix de la résidence de la famille appartient au mari, la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. Le programme. Et aujourd'hui, l'article 108 du Code civil, toujours, dispose que les époux peuvent avoir deux domiciles distincts, sans qu'ils soient portés atteinte à la communauté de vie. C'est un vrai paradoxe, puisqu'il n'est plus besoin de vivre ensemble pour être ensemble. Un petit peu plus tard, la loi de 85, 23 décembre 85, établit une officielle égalité entre les époux dans les régimes matrimoniaux et pour les parents dans la gestion des biens de leur enfant mineur. Et en 99, c'est l'arrivée dans le panorama juridique du PACS, du Pacte civil de solidarité, qui a été modifié plusieurs fois pour s'adapter un petit peu à l'évolution des mœurs et permettre à des gens qui ne souhaitaient pas ou qui ne pouvaient pas se marier d'avoir un ersatz de statut juridique. On s'apercevra que c'est pas exactement le cas, et surtout fiscal, puisque depuis la loi TEPA du 21 août 2007, il y a un régime fiscal pour les partenaires pacsés qui est calqué sur le régime fiscal des époux, avec notamment une franchise de droit en matière successorale. Voilà, donc on s'aperçoit qu'effectivement, l'évolution législative s'est vue bouleversée dans les 50 dernières années, et que aujourd'hui, on peut dire, comme dit le professeur Carbonnier, à chacun sa famille, à chacun son droit. Dans une deuxième partie, on peut considérer qu'aujourd'hui, on parle plus facilement de conjugalité que de mariage, et que si le mariage est défini dans tous les lexiques de vocabulaire juridique comme l'union légitime d'un homme et d'une femme, ou l'union légale de l'homme et de la femme, on voit également dans une autre édition, chez Dalloz, un lexique de termes juridiques, le mariage est l'union stable de l'homme et de la femme résultant d'une déclaration reçue en forme solennelle en vue de la création d'une famille. On note que le mot stable y figure encore. Dans certains cours de droit, on voyait également que le mariage était un acte officiel et solennel qui instituait une communauté de vie entre deux époux, appelée famille, foyer ou ménage. Donc il y a aussi un petit peu une graduation dans la terminologie. Le but de la réunion était la fondation du foyer et l'éducation des enfants issus du couple. Alors aujourd'hui, dans les familles recomposées, issus du couple, ça ne veut pas dire forcément issus du même couple, mais issus de ceux qui forment le couple à ce moment-là. On voit aussi, alors, j'ai relevé sur un portail sur internet, j'ai mis les références, justif.gouv.fr, justice civile, je pourrais vous donner les références, qu'il y a une volonté, et ça rejoint ce que disait M. Dumont tout à l'heure, une volonté des pouvoirs publics et du législateur de rappeler que la société a besoin du mariage. Le mariage est un acte public, juridique, solennel, par lequel un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre dans la durée, devant et envers la société, pour fonder ensemble un foyer. Une dimension qui est un petit peu un rappel à l'ordre, quelque part, de cette définition et de la position du mariage nécessaire à la société. De fait, le mariage civil n'est pas simplement une formalité administrative qui ne commence et ne s'achève pas le jour de la cérémonie. Tout ça sur le site du service public. Parfois, on croit rêver. Alors, j'attire votre attention sur l'édition 2011 du Petit Robert qui définit le mariage comme l'union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. D'anticipation de la disparition de la notion de couple homme-femme dans le mariage. Ça commence par le dictionnaire et on ne sait pas où ça va nous mener. Voilà, donc le pluralisme juridique a gagné sur le droit du mariage, même s'il y a ce petit rappel qu'on a vu par le service public. Et on a plusieurs statuts juridiques qui s'offrent aujourd'hui à la conjugalité, le mariage, le pacte et le concubinage. Cette notion de conjugalité dont on ne mesure encore pas toutes les retombées. Aujourd'hui, le couple évolue dans cette nouvelle dimension de conjugalité. Il y a une hiérarchie des normes conjugales, que sont le mariage, le pacte et le concubinage, en fonction de la nature de l'engagement qui est pris dans le couple. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la nécessité d'un engagement sur la base de l'union. Cette notion de conjugalité, elle est indépendante aujourd'hui de la structure familiale qui en résulte, qui est que soit une structure légitime ou naturelle, et puis demain sans doute homosexuel ou hétérosexuel. Certains pays ont déjà montré qu'ils avaient de l'avance, si on peut dire. Et aujourd'hui, rien n'interdit donc la conception d'une cellule familiale à durée limitée, recomposable au gré des recompositions conjugales. Le fondement actuel du couple, dans une troisième partie, le regard de praticien du droit au quotidien, et surtout depuis quelques mois que mon attention est orientée sur le propos de ce soir, m'a conduit à faire plusieurs constatations. Et je me suis surpris à trouver dans une chanson qui n'est pas effectivement une citation, une chanson de Jodassin, qui n'est pas répertoriée comme un philosophe très célèbre, qui a une chanson qui s'appelle « Salut les amoureux », qui date de 1972, et dont le refrain est « On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. » Et je me suis dit qu'aujourd'hui, le sentiment du le nouveau couple se fonde peut-être trop simplement sur le sentiment amoureux, et ça dénote après au niveau du parcours et des réactions que certains des gens qui viennent me consulter établissent dans la conversation qu'on a ensemble. Alors je cite également le père Denis Sonnet, qui n'est pas non plus un philosophe, mais qui a écrit un livre qui s'appelle « Réussir notre couple » et qui dit dans son introduction que entre l'homme et la femme, l'amour s'apprend, et que pour cela trois ponts sont à construire, le pont du cœur, le pont du corps et le pont de l'esprit. Et donc, dans ce raisonnement, le fondement amoureux du couple, le pont du cœur, n'est qu'une première étape. Si le couple et la famille qui va en être issue consistent en une simple structure d'épanouissement pour offrir le bonheur, on peut considérer que la désunion naîtra de ce que la structure n'offre plus, le bonheur espéré. C'est encore le père Denis Sonnet qui écrit dans un très récent article sur la cohabitation prénuptiale, paru dans Famille Chrétienne, celui de la semaine dernière pour les abonnés. Ne vouloir s'engager que si le couple est comblé, c'est oublier qu'il n'existe pas de couple parfait. Tôt ou tard, chacun butera sur la différence. Des tensions, des chutes du désir sont inévitables. Il invite ses lecteurs à s'interroger sur ce que constitue le couple. Cet engagement, la décision ferme de tout faire pour s'adapter à la différence, au lieu d'emporter inconsciemment cette idée parasite qu'on se séparera si ça ne va pas. Et donc, à ce sujet-là, fort de ces premières observations, je me suis résumé après un rendez-vous avec un jeune homme et une jeune femme qui venaient me consulter pour voir le montage d'une opération d'achat de terrain et de construction de la maison, le parcours qui me paraissait avoir été le leur. Et donc, ces étapes, on se croise, on se remarque, on se plaît, on s'embrasse, on couche, on décide de se mettre en ménage, la conjugalité commence, en prenant un appartement, parce que la chambre chez les parents est un peu trop, ou un peu pas assez, enfin. Puis on fait un enfant, c'est l'expression qui revient aussi, assez souvent, volontairement ou non. On constate que l'appartement est trop petit, puis on se décide à s'agrandir, éventuellement construire. Et là, on va voir le notaire et on constate qu'on a pris le processus dans un sens qui n'est pas forcément le plus adapté. Donc on est bâti sur le sentiment, mais on n'a pas structuré l'aspect un petit peu pratique des choses et juridique. De ce fait, on se retrouve à être, nous, juristes, obligés de faire des circonvolutions techniques pour arriver à s'adapter à la situation. Alors que si on avait pris le processus dans le bon sens, on aurait pu construire dans le bon sens. Voilà. Le sentiment qui anime ces jeunes, ces couples, il peut être authentique, il peut être vrai, mais il est, comme le disait le père Sonnet, donc, marqué de cette possibilité de se désaimer un jour et le cas échéant de se séparer. Et dans les conversations que j'ai avec les clients, on n'a pas cette notion de s'engager, mais on se dit, on vient vous voir pour mettre quelque chose en place si jamais il nous arrive quelque chose. Et ce, s'il nous arrive quelque chose, c'est pas forcément le décès à première vue, c'est qu'est-ce qui se passe si on se sépare. Donc la motivation du couple, il y a le sentiment, mais il y a aussi la porte de sortie qui fait partie un petit peu du contexte. D'un autre côté, ce qui fait plus peur, c'est le crédit sur 30 ans. Si vous voulez, quand on lit un acte et qu'on leur explique que la dernière échéance du prêt, ça sera en 2047, ça leur fait un petit peu plus peur. Et en revanche, ils n'ont pas du tout intégré dans leur réflexion qu'il y avait aussi une durée pour leur engagement. Une durée à long terme, j'entends. Voilà, donc on peut constater aujourd'hui, enfin en tout cas moi pour la pratique que j'en ai, que le mariage n'est plus une priorité. On prépare la maison, on prépare le matériel, mais la préparation de la vie de couple ne fait plus partie des fondements de la conjugalité. Et le père Denisonnet disait encore dans ce même livre que l'impréparation au mariage est la meilleure préparation au divorce. Force est de constater que malheureusement, il y a plus d'un mariage sur deux qui finit par un divorce, surtout d'après le père Denisonnet, quand il y a eu une période préconjugale au mariage. Donc voilà, le sacrement c'est plus ce que c'est, mais la maison ça c'est sacré, il n'y a pas de souci. Donc j'ai remarqué aussi que il y avait une dissociation qui était faite entre le statut juridique et puis le mariage, qui est réduit à une fête familiale qui coûte cher. Et donc, par définition, on a des priorités. La priorité, c'est la construction de la maison. Et donc, on va essayer de trouver un artifice pour utiliser le système juridique dans la situation dans laquelle on est. Et on se mariera après s'il reste des sous. Et donc, on a l'ersatz, peut-être la phase intermédiaire, qui est le choix du Pax, pensant que avec ça, on aura une espèce d'assurance contre une liquidation un peu particulière ou une succession au moins fiscalement avantagée. Et donc, c'est aussi à contre-cœur parfois que j'évoque avec ces jeunes l'idée de ne pas se priver du statut juridique du mariage en dissociant la fête de la cérémonie à la mairie et en leur disant bah, « Écoutez, vous allez vous marier un mardi après-midi à 16h. 16h pourquoi ? Parce que ça évite éventuellement de payer le repas, le resto au témoin. On repart tout de suite au boulot après. Donc dans la notion d'économie, tant qu'à faire, on va pousser le vice jusqu'au bout. » Et donc, au travers de cette suggestion, on amène les jeunes à réfléchir sur la notion de mariage, la notion d'engagement, et puis, le cas échéant, de se dire que finalement, le mariage emporte un statut juridique, mais c'est aussi un fondement de leur couple. Voilà, alors, la règle de droit face à la conjugalité aujourd'hui, Je ne peux pas vous faire un cours de droit parce que c'est pas le propos, c'est pas le but, mais la pluralité des formes d'union correspond à une pluralité de mœurs, et donc le législateur a dû s'adapter et adapter les textes législatifs par rapport à l'évolution des moralités. Au regard des différents régimes matrimoniaux, que ce soit de la communauté légale à la communauté universelle en passant par la séparation de biens, on peut constater que c'est effectivement les règles des régimes matrimoniaux qui sont les plus adaptées à la vie du couple. Les règles de liquidation des patrimoines, des successions, des partages sont éprouvées, alors que au niveau du Pax, c'est l'indivision qui prédomine, et on ne peut pas dire qu'une indivision soit des plus simples à régler, surtout lorsque les gens ne s'entendent pas. Voilà, donc je milite évidemment dans mon métier, je milite pour le mariage. Il peut y avoir une connotation bassement gestion de patrimoine dans les propos que j'emploie, mais ma position de notaire ne me permet pas de faire trop d'argumentation soit philosophique voire religieuse, et je peux constater simplement que en revenir aujourd'hui à une sacralisation du mariage est particulièrement difficile dans la mesure où la notion du sacré, la notion de la vie à deux est plutôt marquée par le matérialisme que par les engagements et le fondement d'un couple durable basé sur effectivement le sacrement auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Je vous remercie.
Donc c'est un petit peu original qu'une femme et une laïque je viens de parler au nom de l'Église. Donc je ne viens pas parler au nom de l'Église, hein, je viens de parler en tant que canoniste, donc spécialiste du droit de l'Église. Alors peut-être que vous avez jamais vu, tout à l'heure je suis passée dans la bibliothèque en haut et j'ai vu qu'il n'y avait pas de code de droit canonique dans la bibliothèque ici. Alors voilà le code de droit canonique. C'est déjà important que vous voyez que ça existe. Ce qui est extraordinaire quand on fait du droit canonique, c'est que c'est un droit qui est universel. Et ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Et tout au long de mon propos, je vous dirai bien que le droit canonique est une spécialité qui est bien précise, mais qui est aussi universelle. Donc, on va essayer ensemble de sortir du côté franco-français, rationnel, juridique, légaliste. Le droit canonique est tout en finesse. On dirait que c'est un peu un droit qu'on dirait un petit peu style oriental. Vous savez, les nazi, les oui, mais, en fait, sont plus importants que les règles, souvent, le droit canonique. Et vous allez voir que c'est absolument passionnant, car le droit canonique, ce code de droit canonique de 1983 est le fruit du Concile Vatican II. Vous savez, en ce moment, on entend beaucoup parler du Concile Vatican II. Eh bien, c'est le fruit du Concile Vatican II qui est mis en canon. Donc, si vous voulez, c'est de l'ecclésiologie. Hein, l'ecclésiologie, ça veut dire que c'est l'étude de comment est l'Église. C'est l'ecclésiologie mis en canon. Alors, on ne dit pas en article. Hein, on ne va pas dire article numéro 1, 2 ou 3. On va dire canon 1, canon 2, canon 3. D'accord ? Voilà. Alors, canon, c'est un nom un petit peu spécial. Hein. Alors, c'est un droit qui est vraiment canon, je vous le dis, parce que j'ai beaucoup de plaisir à l'étudier. Mais c'est surtout canon, ça veut dire tout simplement en grec, ça veut dire la norme. Ça veut dire, en fait, c'est parti, vous savez, des cannes. En fait, pour faire les mesures, par exemple, de ce livre, on prenait une canne, hein, et puis on faisait la mesure. Et à partir de là, est venu canon, canon en grec, qui veut dire la norme, la règle. Hein. Donc, voilà le terme de droit canonique. Donc, qu'est-ce que le droit canonique ? Donc, c'est le droit qui régit l'organisation interne de l'Église. Quel est le but du droit canonique ? Alors, s'il y a un canon à connaître, c'est le canon 1752. C'est le dernier canon du Code qui dit que le but du droit canonique, c'est le salut des âmes. Extraordinaire. Alors, à qui il s'applique ? Eh bien, il s'applique à tous les baptisés de l'Église catholique du monde entier. Hein, et dans lui, il y a différents codes. Celui-là, vous savez, nous, on est dans l'Église, je suis membre de l'Église catholique latine, étant ici en France. Mais il y a d'autres églises catholiques qui sont des églises catholiques orientales. Par exemple, les maronites, si vous connaissez. Donc, en fait, il y a deux canons pour l'Église catholique. Il y a le canon, le code de droit canonique latin, qui est celui-là. Et puis, vous avez, qui est de 1983. Donc, vous avez vu, hein, Vatican II, ça se termine en 63, et il faut 20 ans pour écrire un code. Ça vous étonne pas, je pense. Et puis, il y a un autre code, qui est le code de 1990, qui est le code des églises orientales. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule église orientale. Il y a, par exemple, des églises orientales. Par exemple, j'ai l'église maronite et une des églises orientales. Donc, ça touche combien de personnes ? À peu près 1 milliard de catholiques dans le monde. Hein, à peu près 17% de la population mondiale. Et moi, j'ai beaucoup aimé, quand j'ai étudié ça et encore aujourd'hui, de voir que c'est le même code qui est, par exemple, pour les Indiens latins, ou pour les Africains, ou pour les Anglo-Saxons, alors que franchement, c'est pas du tout le style anglo-saxon. Je sais pas comment ils font quand ils lisent ça, les Anglo-Saxons. Ça doit être assez difficile pour eux. Voilà, parce que c'est vraiment beaucoup plus un style, je veux dire, tout en finesse, tout en nuance. Voilà. Excusez-moi pour les Anglo-Saxons. Alors, on va se demander un petit peu ensemble quelle est la spécificité du mariage chrétien, d'accord ? Alors, je vais vous dire des choses qui sont basiques, mais c'est bien quelquefois de se les redire. D'abord, le mariage chrétien, c'est entre un homme et une femme, très important. Hein ? Le mariage chrétien, c'est monogame. Ça peut vous paraître normal, mais enfin, dans le monde, il y a encore beaucoup de mariages bigames. Hein ? C'est monogame. C'est égalité de dignité entre l'homme et la femme. Ça, c'est absolument révolutionnaire. Imaginez, il y a 2000 ans, l'égale dignité de l'homme et de la femme. Excusez-moi, aujourd'hui, si on regarde les autres religions, et qu'on regarde les grandes religions monothéistes, il n'y a pas égalité de l'homme et de la femme, ni dans le judaïsme, ni dans l'islam. Donc, égalité de l'homme et de la femme. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Christ. Galates 3, 28. Il est basé sur l'amour. Ça aussi, c'est original. L'amour, c'est le cœur et le sommet de toutes les révélations bibliques. Alors, bien sûr, on va retrouver aussi dans l'histoire du christianisme des mariages arrangés. Vous connaissez tous les histoires de France et les mariages des grands rois, etc., pour des questions d'alliances politiques, des alliances patrimoniales. On se mariait parce qu'on voulait, parce que son voisin avait une terre qui nous arrangeait bien au niveau rural, par exemple. Bon, ça a toujours existé. Je ne dis pas que c'est que basé sur l'amour, mais l'amour a toujours été reconnu dans la Bible comme quelque chose qui est vraiment le fer de lance de la révélation biblique. Et puis, il est ouvert à la vie. Important, hein. Je vais vous faire sourire un petit peu. Selon le code de 1917, qui était l'ancien code avant le code de 1983, on disait que la fin première du mariage, c'était la procréation et l'éducation. Et puis la fin secondaire, c'était le remède à la concupiscence. Alors aujourd'hui, on n'est plus ça du tout, hein. Maintenant, avec le code de 1983, on parle plus de remède à la concupiscence, on dit pas que la fin première c'est la procréation et l'éducation, même si c'était ce qu'on retrouvait dans le code romain. Parce que vous savez, le droit canonique, hein, le droit de l'Église, il est issu au départ du droit romain. Vous savez bien que le Christ était donc dans l'Empire romain, et puis ça s'est développé, le christianisme s'est développé grâce à l'Empire romain. Donc on est pétri dans le christianisme de la loi romaine. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est dans la loi romaine, c'était quoi le but? C'était de faire naître des futurs petits citoyens. C'était ça, le but du mariage. Voilà. Et bien là, malheureusement, j'allais dire, il y a toute une tradition un peu scolastique sur le mariage qui disait que vraiment le mariage était pour la procréation, essentiellement pour ça. Et donc, quand un homme devait se marier, il cherchait, si possible, une femme qui avait des hanches un petit peu bien développées, et ce qui l'intéressait le plus, c'était qu'il lui fasse des beaux enfants. Voilà. Ça a été pendant longtemps, ça aussi. Hein. Mais il n'y avait pas que ça, et aujourd'hui, on retrouve vraiment, au sein de l'Église catholique aussi, que le bien du mariage, c'est tout simplement aussi la relation interpersonnelle et le bien des époux. Et puis, il y a aussi la procréation. Mais dans le mariage chrétien, il faut qu'il y ait quand même une ouverture à la vie. Vous comprenez que cette ouverture à la vie n'est pas le seul but. Sinon, pourquoi il y aurait des gens qui se marieraient à 70 ans, hein, religieusement? Si c'était que l'ouverture à la vie, je crois que là, il y aurait un problème. Voilà. Et puis, le mariage chrétien est basé sur le consentement. Vous savez, vous avez tous été, je pense, déjà un mariage à l'église. La grande question, vous allez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contrainte? Donc, en fait, le christianisme est venu parachever le consensualisme romain. C'est très important. Aujourd'hui, 99% des causes de reconnaissance de l'unité de mariage dans l'Église catholique, qui sont traitées par les tribunaux ecclésiastiques dont je fais partie, puisque je suis juge d'instruction au sein des tribunaux ecclésiastiques, s'appellent des vices de consentement. 99%. C'est-à-dire que le consentement, au départ, il y avait un vice. Donc, je vous propose d'ouvrir un peu votre code. Alors, comme je suppose que vous n'avez pas votre code avec vous, certains doivent avoir le petit... à la page 6, ils le savent par cœur. Je vous dis quand même, on peut pas être canoniste, on peut pas être juriste sans ouvrir un code. Hein. Pour moi, c'est impossible. Donc, on va lire par exemple le canon 1055. Qu'est-ce que le mariage? Canon 1055. L'alliance matrimoniale par lequel un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevé entre baptisé par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Alors d'abord, vous avez l'alliance matrimoniale. Alors, je ne sais pas s'il y a des biblistes parmi vous, mais le terme brit, verit, ça veut dire l'alliance en hébreu, et c'est un terme qui est fondamental pour la théologie. Hein, l'alliance entre Dieu et les hommes, et là, c'est une alliance matrimoniale entre un homme et une femme. Donc, c'est bien marqué un homme et une femme, hein, constituent entre eux une communauté de toute la vie. Le consortium, la communauté de toute la vie. Je vous parle un petit peu latin parce que tout simplement le code il est en latin. Ne vous inquiétez pas, il y a une traduction à côté. Ordonné par son caractère naturel au bien des conjoints. Caractère naturel, attention, on va revenir là-dessus, c'est extrêmement important. Le mariage est avant tout une institution naturelle. Hein. Au bien des conjoints, qu'est-ce qui est premier? Avant qu'on parle des enfants, on parle du bien des conjoints, d'accord? Ainsi qu'à la génération et l'éducation des enfants. Il n'y a pas un primaire, un secondaire, hein, je crois qu'il ne faut pas mettre de hiérarchie. Hein. A été élevé entre baptisé par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit par le fait même un sacrement. Alors, on va revenir là-dessus, ça veut dire qu'entre deux baptisés, normalement, n'est reconnu que le mariage sacramentel, d'accord? C'est ce que la plupart du temps les gens savent. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué, plus fin et beaucoup plus respectueux des personnes que ça. on va continuer un petit peu ce panorama. On va prendre le canon 1057. Quand on parle donc du consentement, qu'est-ce qu'un consentement ? C'est le consentement des parties légitimement manifestées entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage. Vous voyez, le terme de faire le mariage, c'est un terme tout à fait romain. Hein, c'est le consentement matrimonial qui fait le mariage. C'est pas le curé qui fait le mariage, c'est pas le maire qui fait le mariage. Hein, c'est le consentement, comme disait très bien Monsieur Dumont tout à l'heure. C'est le serment, c'est le consentement, c'est le oui qui est donné qui fait le mariage. Hein. Donc, c'est le consentement des parties légitimement manifestées entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage. Ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine. Ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine. Ça vous paraît évident, mais je vous assure, l'Église a été chantre de la liberté depuis le début. C'est-à-dire que les mariages sans le consentement des parents étaient des mariages valides. Or, je peux vous assurer que les pouvoirs civils, pendant longtemps, ont lutté contre ça. Hein. Mais on a toujours considéré qu'à partir du moment où la personne était majeure et qu'il y avait un consentement, même s'il n'y avait pas l'autorisation des parents, le mariage était valide. D'accord ? Donc, aucune puissance humaine ne peut suppléer. Et la crainte révérentielle, alors vous allez sourire aujourd'hui parce qu'en France, ça n'existe plus beaucoup, la crainte révérentielle. Hein. Mais ça existe encore dans beaucoup de pays du monde. Hein. Vous prenez par exemple, même en Europe, hein, on va prendre au Portugal, par exemple, au sud du Portugal, ça peut très bien arriver que ce que veulent les parents, les enfants le fassent, hein, et qu'on se marie parce que les familles ils sont mis d'accord entre elles. Eh bien, la crainte révérentielle, si vous vous mariez, vous dites oui, poussé par vos parents, la nullité du mariage peut être reconnue. D'accord ? Donc, c'est très intéressant de voir combien l'Église a toujours été là pour défendre l'égalité de l'homme et de la femme, c'est déjà extraordinaire, et pour défendre aussi la liberté des personnes. Aujourd'hui, tout ce qui vous paraît de l'ordre, surtout vous les jeunes étudiants, de l'ordre de l'évidence, en fait, si vous regardez, très souvent, la source est au sein du christianisme. Donc le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage. Waouh ! Irrévocable. On va revenir sur cette question irrévocable, parce que je pense que c'est ça qui pose problème, non ? Pour la plupart d'entre vous, et pour la plupart des gens, ils disent, mais attends, un mariage indissoluble, mais ça veut dire quoi ? C'est ça, en fait, qui fait la différence, essentiellement, entre un contrat civil, un mariage civil, et un mariage sacramentel. C'est l'indissolubilité. Mais voyez, vous allez voir, c'est pas aussi simple que ça. Alors, revenons un petit peu, justement, à la question de l'indissolubilité. L'indissolubilité, justement, ça veut dire que dans le mariage, il y a un lien qui est objectif. C'est pas simplement un lien subjectif, ok? Le mariage crée un lien. On est marié. Voilà. On est marié. C'est pas simplement quelque chose de subjectif. Donc, bon, vous avez toutes les références, Gaudium et Spes, ou Familiis Consortio numéro 20, etc. On a 20 minutes, donc je passe. On pourra en reparler. Alors, pour vous dire un petit peu par rapport au mariage civil français, comme le disait M. Mestrallet, le mariage civil français, bon, je vois parmi vous qu'il y a pas mal de juristes, je vais pas développer plus, mais il y a quand même 150 articles sur le mariage. Hein. Il y a 11 articles simplement sur le Pax, et il y a un article sur le concubinage. Vous vous rendez compte la différence ? 150 sur le mariage, 11 sur le Pax et 1 sur le concubinage. Donc le mariage, au niveau civil, a un statut juridique qui est très complet et protecteur. Et en fait, ma vision, et je pense que c'est pas la seule, c'est un peu l'achèvement de la logique du mariage chrétien, le mariage civil français. Mais on va revenir là-dessus. D'abord, dans le mariage civil, il y a une différence de sexe, normalement. Hein. Il y a un devoir de fidélité, d'assistance. Et il y a depuis le 4 avril 2006 quelque chose qui est nouveau, je ne sais pas si vous le savez. En plus, c'est quoi ? Le respect, tout à fait. C'est très intéressant. Hein. Donc, si vous regardez les quatre piliers du mariage chrétien, s'il y en a qui sont mariés dernièrement, ils doivent les connaître par cœur. La liberté, la fidélité, l'infécondité et l'indissolubilité. Si vous regardez le mariage civil, il y a liberté, normalement il y a fidélité, normalement il y a fécondité, il y a juste le problème de l'indissolubilité. Donc, où est-ce que ça coince ? C'est au niveau de l'indissolubilité. Alors, c'est très important de se dire que le mariage, comme je disais tout à l'heure, est avant tout une réalité terrestre. C'est un droit naturel et primordial de l'homme. On va retrouver ça aussi dans les derniers textes de l'instruction d'Intas Conobi, qui est le dernier texte canonique. Hein. Ça, c'est... Comment vous dire ? Il y a eu des mariages avant le Christ, hein, Il y en a encore aujourd'hui, il y a des mariages partout. Le mariage, c'est d'abord une institution naturelle qui est basée sur quoi ? Sur un serment, comme disait M. Dumont. C'est la parole échangée, c'est ça qui fait mariage. Et ce mariage, comme on le voit aujourd'hui, il faut qu'on arrive à sortir un peu de toutes les idées, parce qu'on a énormément, énormément d'idées fausses. Donc, nous, canonistes, donc nous, on juge au nom de l'Église, ok ? Donc on va dire, nous, Église catholique, hein ? On considère le mariage naturel, comme tout mariage naturel, comme des mariages indissolubles. Ça veut dire, si j'ai à juger sur un mariage entre deux pygmées qui sont mariés au fin fond de la brousse et sont à leur rite animiste ou leur rite, etc. Il y a un des pygmées qui se convertit et qui vient vers moi en disant, ben voilà, j'ai un mariage coutumier, mais je suppose que ça vient voir son curé. Il va dire, je veux me marier maintenant, je me suis fait baptiser, je veux me marier religieusement avec une catholique pratiquante. Je suppose que mon mariage pygmée, il vaut rien. Je veux dire, j'avais pas la foi, c'était coutume. Votre mariage pygmée, entre guillemets, pour nous, Église catholique, à partir du moment où il y a eu échange de consentement, s'il y a eu échange de consentement, votre mariage est naturel, légitime, authentique et indissoluble. Ah bon ? Oui. Deux musulmans qui se marient devant le cadi, je sais pas où, en Libye, ils arrivent et puis ils se disent, ben voilà, on arrive en France, on est des réfugiés, etc. Bon voilà, j'ai divorcé avec ma première épouse et je vais épouser une catholique. Vous pouvez pas. Votre mariage musulman, il est pour nous authentique, naturel et indissoluble. Sauf si on va pouvoir prouver qu'il y a eu contrainte et que c'est un mariage forcé, etc. Mais à ce moment-là, on fait enquête, d'accord ? Pour voir s'il y a bien la liberté des personnes. Deux non-baptisés qui se marient civilement en France, ce qui arrive très souvent aujourd'hui. Et puis, ils se divorcent, et puis il y en a un qui après veut épouser, ou une qui veut épouser un catholique. Et moi, je m'en fous, j'étais mariée que civilement. Ah bon ? Mais t'étais pas baptisé, donc vous n'êtes pas tenu à vous marier à l'église. Donc votre mariage civil, il est indissoluble. Moi, je peux pas curer, enfin, je pourrais pas être curé de toute façon, hein. Mais je peux pas... un prêtre peut pas vous marier. Votre mariage, il est indissoluble. Ça, je suppose que ça doit bousculer pas mal d'idées reçues chez beaucoup d'entre vous. Je peux vous dire que ce que je vous dis, il y a même des prêtres qui le savent pas. Pour vous dire, parce qu'on a une idée qui est complètement fausse, que pour nous catholiques, enfin pour nous, je veux dire, pour les catholiques, n'est valable que les mariages sacramentels. Ok ? C'est faux. De quel droit demanderait-on à des gens qui ne sont pas catholiques de se marier devant un curé ? Enfin... il y a un respect des personnes. On va pas demander à des non-catholiques de se marier devant un curé, non ? Et on va pas demander à tous les gens qui sont dans le monde entier, aussi, d'avoir les mêmes règles que nous. D'accord ? Bon, je vous provoque un peu esprit, hein, je suis journaliste hein, aussi. Donc, on va revenir un petit peu plus dans le détail. Donc, alors, quelle est la valeur du mariage civil pour nous, canonistes ? C'est ça la question. Ok ? Donc, tout mariage est une institution naturelle, une réalité humaine aussi vieille que l'humanité. L'union d'un homme et d'une femme qui fait alliance entre eux pour former une communauté de vie. Elle a été élevée à la dignité sacramentelle par le Christ. Le mariage est le signe de l'amour qui unit le Christ à son Église. Donc, ça a été élevé, mais c'est élevé à la dignité sacramentelle, c'est l'un des sept sacrements que depuis le XIIIe siècle. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de prendre un petit peu de hauteur. Alors, on va prendre quelques chiffres. Aujourd'hui, en France, il y a un mariage religieux pour trois mariages civils. Intéressant. Et il y a trois Pax pour quatre mariages civils aujourd'hui. On est arrivé à trois Pax. Avant, on avait deux Pax pour trois mariages civils. Maintenant, on a à trois Pax pour quatre mariages civils. En 2010, il y a eu 249 000 mariages civils. 195 000 Pax et 85 000 mariages religieux. Donc à Lyon, il y a eu 8 000 mariages civils et 2 000 mariages religieux en 2010. Alors on va se replacer un petit peu. J'ai commencé mon propos en disant que nous étions franco-français souvent. Hein. On va essayer de sortir un petit peu de l'idée franco-française, d'accord ? On va regarder déjà, prendre un peu de la hauteur. Parce que, vous savez, quand même, nous, on est les chantres de la laïcité, quand même. On se rend même pas compte quand on reste en France, mais il suffit d'aller un tout petit peu ailleurs. Vous allez voir, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà fait l'expérience. On est un peu spéciaux, quand même, les Français. Donc, on est un des seuls pays au monde où, par exemple, on est obligé de passer à la mairie avant d'aller à l'église. Dans beaucoup de pays, on va à l'église, le prêtre est considéré comme officier d'état civil, et ça, c'est bon, ils sont mariés civilement. Ok. En France, on est obligé de passer obligatoirement à la mairie. Pourquoi? Intéressant. Est-ce que vous savez que la France a été l'un des premiers pays au monde à avoir un état civil? Comment ça se passait avant? Avant, ça se passait tout simplement que pour avoir des registres, eh ben, c'était le registre du baptême. Et qu'en fait, celui qui faisait un peu officier d'état civil, c'était le curé, c'était le prêtre qui mettait dans le registre de baptême. Et vous savez, tous ceux qui font maintenant des travaux de généalogie, etc., bon, eh bien, si c'est avant la Révolution française, il faut aller regarder les registres dans les paroisses, d'accord? Alors, beaucoup disent que l'état civil est né avec la Révolution française, c'est faux. L'état civil est né avant la Révolution française, pas beaucoup, elle date de Louis XVI, c'est intéressant. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'état civil est né de la division des chrétiens. Et aussi, entre guillemets, à cause du problème, entre guillemets, des juifs. Est-ce que vous pensez que pour un juif, pour se marier, il est obligé de passer devant un curé? C'est un peu dur, ça, quand même. Comment il faisait, alors? Comment il faisait quand il se mariait, dans une synagogue, si c'était pas reconnu, puisqu'il n'y avait pas d'officier d'état civil? On considérait qu'ils n'étaient pas mariés. Et pour le protestant, comment il faisait? Pour se marier, s'il ne voulait pas passer devant un curé, on considérait qu'il n'était pas marié. Et donc il y avait des très gros problèmes, ça aurait été pour le notaire, au niveau patrimonial. Parce que les protestants ne pouvaient pas passer leurs biens à leurs enfants, puisqu'ils étaient considérés comme des enfants illégitimes, puisqu'ils n'étaient pas mariés devant un curé. C'est quand même énorme, non? Donc en fait, l'état civil français est né quelques années avant la Révolution française, juste par Louis XVI, qui a fait un décret pour créer l'état civil spécialement pour les juifs et pour les protestants. Mais on va remonter encore plus haut. C'est encore intéressant. Avant, on se mariait pas devant le curé, hein? Dans l'histoire de l'Église, pas du tout. On suivait les rites locaux, on se mariait, Marie et Joseph, ils ont dû se marier comme on se mariait à ce moment-là, en Galilée, ou à Jérusalem. Selon où vous habitiez, vous aviez soit la loi germanique, soit la loi romaine, vous mariez comme tout le monde. Hein, vous savez, la fameuse lettre où on dit que les chrétiens, à Dionette, où on dit que les chrétiens, ils se marient comme tout le monde, ils travaillent comme tout le monde, etc. C'est ça. Donc on suivait les coutumes locales, c'est tout. Et pourquoi l'Église est venue mettre son nez là-dedans? Alors, c'est pareil, hein. S'il y a des historiens parmi vous, je caricature, mais c'est juste, il faudrait approfondir. Mais c'est intéressant, mais juste pour perdre les idées fausses. Pourquoi l'Église est venue mettre son nez là-dedans? Tout simplement, pour protéger les personnes. Parce que il y a eu le fameux concile de Trente, 1545-1563, qui a obligé, et ça date que pendant 15 siècles, il n'y avait pas d'obligation de passer devant un curé. Pendant 15 siècles, il suffisait de suivre les lois, les coutumes locales pour se marier. Ça date que du concile de Trente. Et pourquoi on a obligé les gens de passer devant un curé? Tout simplement parce qu'il était officier d'état civil. C'était pour protéger les femmes et les enfants, essentiellement. Parce que vous aviez, par exemple, un jeune homme qui épousait une jeune femme, et puis quand la jeune femme devenait un peu plus âgée, il avait un petit problème ou quoi, il voulait changer de femme, c'était pas compliqué, il allait dans le département d'à côté, et puis il allait épouser une plus jeune, quoi. Et qui prouvait qu'ils étaient mariés? Il n'y avait rien s'ils n'étaient pas passés devant le curé qui était officier d'état civil à l'époque. Donc, si vous voulez, l'obligation de passer devant l'église, devant un prêtre, était pour permettre la publicité de l'acte et pour protéger contre les mariages clandestins essentiellement. C'est parti de là, de la protection des femmes et des enfants. Avant, quand on disait qu'il fallait qu'on se marie devant l'église, coram ecclesia, c'est encore un terme qu'on connaît, on se marie devant l'église. C'était pas devant l'église, c'était pas devant le prêtre, c'était devant le bâtiment église. Pourquoi devant le bâtiment de l'église? Parce que quand on se mariait sur le porche de l'église, en général, vous voyez dans les petits villages, le porche de l'église, c'était le lieu qui était public. On était un peu élevé, on se mariait sur le porche de l'église et tout le monde savait qu'on était marié. Donc il y avait une publicité. D'accord? Donc c'était ça que ça voulait dire coram ecclesia. Et puis finalement, on a dit qu'il fallait passer devant, c'est pas qu'un prêtre, parce que ça peut être un diacre aussi, et deux témoins. Ça, c'était pour la publicité, c'était pour protéger les personnes. Et donc, cette procédure qui est encore obligatoire aujourd'hui, de passer devant un prêtre et de témoins, en fait, on peut y échapper à cette procédure. Parce que c'est pas ça qui fonde le mariage. Ce qui fonde le mariage, c'est l'échange de consentement. C'est pas qu'il y a un curé en face de vous au niveau des chrétiens. Ça, c'est très très intéressant de le savoir. Et pendant très très longtemps, on a accepté le mariage clandestin. Vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette, par exemple. Hein? Donc, c'était des mariages clandestins. Et l'Église reconnaissait le mariage clandestin. Et il n'y avait pas de prêtre. Quelquefois, c'était juste un échange de consentement. Et puis même avant, si on relit, pour ceux qui sont un peu historiens, il y a un livre qui est excellent de Godemet, l'histoire du mariage en Occident. C'est passionnant, vous verrez plein de petites histoires croustillantes, etc. Et donc voilà. Donc c'est pour vous dire, il faut casser les idées fausses, hein. D'accord? C'est juste pour vous aider à les casser. Autre chose, c'est que nous, on est quand même issus d'un des pays où il y a eu... le divorce a été un des premiers pays où le divorce a été reconnu. Vous savez très bien. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire du divorce, hein, parce que vous allez l'étudier en long, en large et en travers. Mais enfin, sachez quand même que le divorce a été en Irlande qu'en 1792, en Irlande 1995. Vous savez que, par exemple, aux Philippines ou à Malte, il n'y a toujours pas de divorce. Enfin, voyez. Donc, nous, on a 200 ans d'histoire du divorce. Donc, si vous voulez, dans la mentalité franco-française et laïque, le divorce, ça fait partie de la vie, quoi. Et dans plein d'autres pays, c'est pas comme ça. Et dans plein d'autres pays, pour pouvoir divorcer, il faut passer devant l'Église. Il faut qu'il y ait la nullité du mariage. Et la nullité du mariage donc devant l'Église, devant les tribunaux ecclésiastiques, vaut pour divorce civil. Alors que nous, pas du tout. Vous voyez ? Donc, il faut toujours bien se replacer. Voilà. Alors, je vais pas être trop longue parce que je pense que ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est peut-être plus les questions. Mais pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, je voudrais vous dire que je vais prendre toujours pareil, hein, c'est un peu de la provocation, hein, mais c'est réel ce que je vous dis. Si moi demain je vais épouser un philosophe, on va pas choisir Jean-Noël Dumont, on va choisir un philosophe athée. On va faire comme ça. Un philosophe athée qui est pas baptisé. D'accord? Moi, je suis catholique pratiquante et je vais épouser un philosophe athée non baptisé. Par respect pour lui, disons que ce philosophe athée non baptisé a écrit un traité sur l'athéisme, par exemple. Mais je ne sais pas s'il est baptisé ou pas. Mais je ne sais pas. Donc, je ne peux pas dire son nom parce que je ne sais pas s'il est baptisé et je ne sais pas s'il m'épouserait. Donc, voilà. Donc, je vais épouser un philosophe athée et je l'aime. Il m'aime. On veut vraiment échanger, faire serment entre nous. Qui est vraiment un serment de fidélité entre nous, mais par amour, je peux pas le dire. Écoute, tu viens à l'église rien que pour me faire plaisir, quoi. S'il est athée, je vais pas le dire. Je vais traîner à l'église. Vous êtes d'accord, hein? Qu'est-ce que je fais? J'écris à mon évêque. Je dis voilà, monseigneur, je vous demande une dispense de forme, c'est-à-dire je demande de ne pas passer devant l'église, de pas passer à l'église, mais je vous demande une dispense de la forme canonique, c'est-à-dire normalement devant un prêtre ou un diacre et de témoins, et je vous demande de passer simplement entre guillemets à la mairie, d'accord? Eh bien, si l'évêque me donne la dispense de forme, et que je, surtout en France, hein, et que je vais à la mairie, et que je me marie civilement, parce que alors, la France, quand même, regardez un peu comment c'est écrit le code civil. C'est vraiment une transcription, du mariage chrétien. Je veux dire, alors là, il y a pas photo. À part que maintenant on a mis le divorce, mais si vous regardez les textes, c'est extrêmement, extrêmement proche de ce qu'on vit dans le mariage chrétien. Hein. Et puis, égalité, fraternité, etc., je crois que c'est quand même des valeurs assez chrétiennes aussi. Hein. Donc, voilà, on est quand même dans un pays où il y a des valeurs chrétiennes qui sous-tendent beaucoup de choses. Après, il y a eu des déviations, il y a tout ce que vous voulez, mais on est quand même dans un pays. Donc, le mariage civil français est extrêmement digne et exprime vraiment, si on regarde que les termes qu'on échange, vraiment ce qui est un vrai serment. Donc je peux dire, ben moi je vais me marier avec mon philosophe à la mairie, et ben mon mariage pour moi sera validé authentique. Si la dispense hein, de forme, alors il y a plein de gens qui le savent pas et personne ne le demande, et vous ne voulez pas quand même que trop on le demande. Mais c'est pour vous dire combien l'Église est beaucoup plus large que ce qu'on croirait. En revanche, ce mariage ne pourra jamais être sacramentel. Pourquoi? Parce qu'un mariage sacramentel, il faut que les deux soient baptisés. À partir du moment où il y en a un qui n'est pas baptisé, le mariage n'est pas sacramentel. Ah mais pourtant, moi j'ai un copain, il s'est marié avec un non-baptisé à l'église. Et oui, très bien, votre copain, il s'est marié avec une dispense, disparité de culte, on appelle ça, hein, qui a été demandé à l'évêque pour se marier à l'église, mais son mariage n'est pas sacramentel. Pour qu'il y ait un sacrement, il faut que les deux soient baptisés. Son mariage est légitime, il est authentique, il est indissoluble, mais il n'est pas sacramentel. D'accord? Ça, c'est aussi une chose que... Et alors, imaginez quand même, pour finir, le mariage... enfin, je voudrais juste vous faire prendre conscience, surtout aux élèves, enfin, aux jeunes, j'allais dire, combien le christianisme a été une école de liberté et d'égalité et de fraternité. Imaginez quand même que nous, on accepte quoi? Les catholiques, on accepte les mariages qu'on appelle dispares, avec des non-baptisés, et on accepte des mariages mixtes avec des orthodoxes ou des protestants. Hein, il n'y a pas de problème pour ça. La plupart des autres religions n'acceptent pas ces mariages. Et nous, on l'a toujours accepté. Et en plus, vous savez, on l'a accepté aussi depuis très très longtemps, parce qu'il y a toujours eu des mixités de population. Hein. Donc voilà. Donc il y a une très grande ouverture de l'autre, un très grand respect de la parole humaine au sein de l'Église, et on est beaucoup moins coincé que beaucoup ne le pensent. Et je crois que c'est intéressant. Moi, je vous invite vraiment à lire du droit canonique. Hein. Alors peut-être pas tout de suite. Alors moi, c'est sûr que dans mon travail de juge d'instruction au tribunal ecclésiastique de Lyon, je suis amenée à rencontrer les couples qui vont pas. C'est normal. C'est les couples qui demandent une reconnaissance de nullité de mariage. Et quand on travaille sur des reconnaissances de nullité de mariage, vous serez scotché de voir comme on va en profondeur, quoi. Et on regarde vraiment ce qui s'est passé. Et on a beaucoup plus d'humanité que les gens pensent. Je veux dire, on travaille beaucoup avec des psychiatres, on travaille beaucoup avec des gens qui sont de différentes disciplines, on regarde la personne humaine en profondeur. Le nombre de fois, en tant que juge d'instruction, où je suis amenée donc à interroger les personnes, vous savez comment ça dure quand j'interroge une personne? Je veux dire que je suis bavarde, vous allez repérer, mais quand j'interroge ce qu'on appelle un demandeur ou un défendeur, un demandeur c'est qui demande la nullité, le défendeur c'est l'autre partie, ça peut durer jusqu'à 4 heures. Moi, ça m'est arrivé souvent que les personnes sortent de là en disant, écoutez, peu importe le résultat de l'enquête, peu importe si la nullité ou pas va être reconnue, c'est la première fois qu'on m'écoute comme ça. Quand je passe devant un juge civiliste et que le divorce est prononcé en 4 minutes montre en main, voilà. Donc c'est juste pour vous dire que nous on essaie vraiment, quand on écoute les personnes, d'aller en profondeur. Je dis pas que montre en main c'est fini. Ok, voilà, c'est bon. 20 minutes.
Merci pour ce bel exercice de l'histoire des idées reçues.
On va donner la parole à la salle. Remarquez, avant de donner la parole à la salle, peut-être que Denis, vous avez une question à poser ou à Bénédicte ou à moi.
Je dis c'est très enrichissant parce que ça me donne un autre regard sur d'autres aspects du mariage que j'avais pas forcément soit mémorisé, soit envisagé. Après, il faut mûrir tout ça pour voir de quelle façon je peux intégrer ça dans ma pratique. Mais encore une fois, c'est plutôt difficile, professionnellement en tout cas, de pouvoir faire un peu de, sans parler de prosélytisme, mais un mélange de mes convictions avec mon travail.
Mais Bénédicte, il y a une promesse que vous n'aviez pas tenue. Vous avez promis de parler de l'indissolubilité. Vous n'avez pas bien parlé. Et ce serait important qu'on comprenne, parce que c'est quand même le point qui interroge le plus l'opinion. Et donc, pourquoi diable, si j'ose dire, l'Église parle-t-elle d'indissolubilité?
Oui.
Bon, je vais vous parler, tout simplement, je vais vous lire du Jean-Paul II, ok? Parce que je n'ai pas fait beaucoup, donc, Familiaris Consortio numéro 20. C'est un devoir fondamental pour l'Église d'affirmer encore et avec force la doctrine de l'indissolubilité du mariage à ceux qui de nos jours pensent qu'il est difficile, voire impossible, de se lier à quelqu'un pour la vie, à ceux encore qui sont entraînés par une culture qui refuse l'indissolubilité du mariage et qui méprise même ouvertement l'engagement des époux à la fidélité. Il faut redire l'annonce joyeuse du caractère définitif de cet amour conjugal qui trouve en Jésus-Christ son fondement et sa force. Enracinée dans le don plénier et personnel des époux et requise pour le bien des enfants, l'indissolubilité du mariage trouve sa vérité définitive dans le dessein que Dieu a manifesté dans sa révélation. C'est lui qui veut et qui donne l'indissolubilité du mariage comme fruit, signe et exigence de l'amour absolument fidèle que Dieu a pour l'homme et que le Seigneur Jésus manifeste à l'égard de son Église. Donc quand vous parlez de Birith d'alliance, hein, l'alliance entre un homme et une femme, et donc pour l'Église, c'est l'alliance, c'est entre Dieu et son peuple, et cette alliance est irrévocable. Voilà. Donc c'est basé sur cette alliance entre Dieu et son peuple qui est irrévocable, qui donne l'indissolubilité du mariage. Mais je pense que quand même c'est assez difficile à comprendre comme ça. Donc ça c'est la simplification théologique, hein, de la réponse sur l'indissolubilité. Maintenant, je pense que si on veut regarder ça plus au niveau philosophique, un peu comme disait Monsieur Dumont tout à l'heure, c'est un serment. Et ce serment est irrévocable. Et c'est, si vous voulez, le poids de la parole donnée. Et je crois que c'est très important, le poids de la parole donnée. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez?
Cependant, je crois qu'on pourrait distinguer justement le caractère irrévocable du serment et le caractère indissoluble du sacrement. Parce que le caractère irrévocable du serment, il repose sur la droiture de la conscience. Et comme vous le dites, sur le sens de la parole. Mais on peut reconnaître que cette droiture de la conscience, elle peut être, comme je le disais, orgueilleuse ou imprudente. Et que donc, même si un homme a prêté serment de manière irrévocable, cette irrévocabilité n'est pas forcément pour lui un destin. Il peut dire comme homme, je me suis trompé. L'indissolubilité du mariage, comme vous l'avez bien dit, elle n'a de sens que dans la relation à Dieu. Car Dieu seul est éternel, semble-t-il. Et donc, si un homme et une femme qui se marient comprennent que dans l'alliance de ces deux personnes, il y a aussi une alliance à Dieu, et la réponse à une alliance à laquelle Dieu invite, alors le mariage est indissoluble. Mais il n'est pas indissoluble par l'irrévocabilité des serments. Et c'est pour ça que il faut, à mon avis, bien distinguer le serment et le sacrement. Parce que le sacrement, c'est un don de Dieu. Le serment, c'est l'haltérophilie de la volonté. Heureusement qu'il y a des haltérophiles. Mais ça n'est que l'haltérophilie de la volonté. Il faut prendre le micro, parce que ceci est enregistré, gravé dans le marbre.
Un don de Dieu, certes, on dit toujours que c'est « je »,« tu » et le « nous » englobe aussi le « Dieu ». C'est-à-dire que c'est un mariage à trois, si vous voulez. Ça, je le conçois très bien au niveau théologique. Mais, mariage à trois... Mais c'est vrai que la force, elle est donnée par le Christ, parce que c'est lui, c'est Dieu qui est source de tout amour. Donc on voit bien que nous, au niveau humain, on est très vite limités. Mais quand même, ça passe sur une personne humaine avec toutes ses faiblesses. Et quand on juge, on reconnaît une nullité de mariage, eh bien, c'est basé aussi sur la faiblesse humaine. Parce que si moi je dis, par exemple, je me suis mariée un jour et vraiment j'étais sincère. Vraiment je souhaitais me marier. Je vous prends un exemple extrême pour que vous compreniez. Je suis homosexuelle. Je me marie avec un homme, donc voilà, et je l'aime profondément. Je l'aime profondément et je pense que avec Dieu, je vais pouvoir, parce que je fais tout un travail de guérison intérieure, par exemple, et qu'avec Dieu, je vais pouvoir passer outre le fait que j'ai une tendance homosexuelle marquée. On appelle ça, au niveau juridique, enfin, au niveau canonique, je suis homosexuelle prévalente. C'est-à-dire que c'est pas simplement une homosexualité comme ça, c'est prévalente. Bon. Et je peux avoir un, deux ou trois enfants. Parce que je peux faire l'acte charnel. Mais en moi, cette homosexualité est devenue prégnante. Et dès que je vois le corps de mon mari, ça commence à me dégoûter. Et puis après, je commence à être agressive. Et puis après, etc., etc., etc. Et pourtant, je me suis mariée à l'église et j'ai demandé vraiment à Dieu de venir dans mon mariage. Mais j'étais sincère, mais je n'avais pas la capacité du don. C'est-à-dire que mon homosexualité faisait que je ne pouvais pas me donner totalement. Donc la nullité du mariage peut être reconnue dans ce cas-là. même si mon mari savait que j'étais homosexuel, même s'il l'acceptait, même si on s'est marié devant Dieu, mais finalement, au final, je n'avais pas cette capacité. Donc, vous voyez, j'entends ce que vous dites, hein, mais c'est très basé quand même sur la personne humaine. Alors, je vous ai pris un exemple un peu grave, hein, pour que vous puissiez prendre conscience de la chose, mais... je me marie et puis je prends, comme je suis une femme, je prends des exemples féminins, je vais faire carrière, ok? Je dis à mon mari, à mon futur mari, avant de se marier, oh, il n'y a pas de problème, je voudrais des enfants, d'abord j'adore les enfants, il n'y a pas de problème, simplement je vais faire carrière. À chaque fois qu'il est temps de mettre un bébé en route, attends, là j'ai une promotion, il faut que je parte à l'étranger, c'est pas possible, etc. J'arrive, au bout d'un moment, mon mari me dit, attends, là tu commences à avoir 41 ans, 42 ans, 43 ans, et moi je me suis mariée pour, quand même, pour fonder une famille. Ah oui, c'est pas que j'étais contre, hein, mais franchement, je pouvais pas, quoi. Eh bien, mon mari peut demander la nullité du mariage en disant, moi je me suis mariée pour avoir des enfants, et donc c'est une cause, le refus d'enfant, et la nullité peut être prononcée. Même si j'étais sincère. Alors, je prends toujours des cas extrêmes, hein. C'est beaucoup plus fin, on passe des heures d'audition, j'entends, je sais pas combien de témoins, enfin, vous voyez, ça se passe pas comme ça, hein. Une nullité de mariage, c'est prononcé après, je sais pas, à peu près, une audition de 4 ou 5 heures de la demandeur, 4 ou 5 heures du défendeur, plus tous les témoins, c'est jugé par 3 juges en première instance, l'appel est automatique en deuxième instance, ça prend 2 ans, enfin, ça se fait pas comme ça, hein. C'est juste pour vous dire. Mais pour vous dire quand même combien on prend conscience aussi, quand même, bien qu'on ait pu faire les choses en toute sincérité et devant Dieu, il y a des cas. Si je suis schizophrène, je peux me marier, être sincère et me marier devant Dieu, mais si je suis schizophrène, c'est pratiquement impossible d'avoir une relation interpersonnelle avec mon époux, par exemple. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un vice de consentement et que le mariage serait reconnu comme mien.